Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Nature à lire ». Alors, jusqu'à présent, nous avions abordé des différentes questions qui sont relatives à la construction de l'espace, la fabrication d'un jardin, la constitution d'un paysage, à partir de données qui sont orientées par la pression, les connaissances que l'on a aujourd'hui, notamment sur l'écologie qui arrive et façonne le jardin en mouvement, dans mon cas, la dimension de cette écologie-là vue à l'échelle planétaire, le jardin planétaire, la construction de l'espace, la forme et l'information, la présence de l'art, le partage de la signature. Aujourd'hui, nature à lire, pourquoi ? Tout ce qui constitue l'espace avec lequel nous travaillons est dans notre métier majoritairement constitué d'êtres vivants. Ce domaine-là, mal enseigné, presque plus du tout, on peut dire, au profit d'autres disciplines sur le vivant, jusqu'à évidemment la microbiologie et les grandes performances que l'on peut savoir exister à cette échelle-là. Mais pour ce qui est des êtres qui constituent l'espace qui est le nôtre, finalement cet environnement, pouvons-nous vraiment le discerner et le nommer correctement ? Je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons qui sont liées aux évolutions de l'information et de la formation, cet enseignement ne passe pas. Mais il a une raison fondamentale d'exister, à mon point de vue, c'est que ce qui a un nom existe, et ce qui n'a pas de nom n'existe pas. On peut donc bien assez facilement se passer de ce qui n'existe pas, que l'on ne reconnaît pas, et on ne pourra pas accuser quelqu'un d'avoir détruit ce qu'il sait ne pas exister. En quoi serait-il coupable ? Évidemment. Donc la prise de conscience de quelque chose qui est important dans le système vivant, et on a vu à quel point ça l'était à propos du tiers-paysage, par exemple, et, y compris dans les zones les plus imbriquées, mélangées, où le vivant est difficile précisément à discerner, c'est important, pourquoi c'est important, etc. Alors nature à lire se rapporte à cette question-là. Comment mettons un nom sur ces êtres qui composent cet ensemble du vivant ? C'est quand même une préoccupation très ancienne. C'est une préoccupation qui commence à l'époque où on essaye de donner à cet ensemble du vivant un caractère objectif, de permettre d'avoir sur lui une lecture objective et de le retirer à un monde de la superstition. Isabelle Stengers dit que le mot nature arrive chez les Grecs anciens, physis, qui s'oppose à la loi, nomos, à la façon d'évoluer à partir de règles. Physis est un constat, une espèce de prise de la mesure de cette nature diverse et complexe, mais avec une certaine distance. Et d'ailleurs, ce que dit Berke beaucoup à ce sujet, cette prise de distance qui commence à cette époque ne fait que s'accroître au fil du temps et à chaque fois que l'on interpose des instruments de mesure entre nous et cette nature, mais finalement pour mieux la comprendre. Et que tout ce qui nous permet d'affiner ce degré de compréhension, bizarrement nous sépare petit à petit de ce monde avec lequel nous avions certainement, il y a longtemps, un état, une relation fusionnelle. C'est à peu près vers le tout début du XVIIIe siècle en France, mais un peu partout en Europe, que naissent les premières lois, disons, de la classification, puisqu'on a cherché à classer, à organiser, à mettre des noms et à classer. Les noms ont toujours existé d'une façon vernaculaire, mais par rapport à quel système se référer. Et les classifications, en ce qui concerne en particulier les végétaux, ont commencé presque toutes au début à partir des usages que l'on pouvait en faire. Et jusqu'à la Révolution française, on avait le jardin des plantes, ce qui est devenu le jardin des plantes, qui était le jardin royal des plantes médicinales. Il s'agissait d'un jardin de médecine. On se soignait avec ces plantes-là. On continue encore aujourd'hui à se soigner un peu avec ces plantes-là. Alors, ce que je vais montrer, c'est un peu en première partie des images qui se réfèrent à ces processus-là, la recherche du nom, la classification, c'est-à-dire les classifications, puisqu'elles ont évolué. Et puis, je vais glisser vers quelque chose qui est plutôt la signalétique, c'est-à-dire la manière de nous montrer vivant avec d'autres codes pour tout à fait d'autres raisons. Mais comme ça touche l'espace public, comme ça touche le paysage, ça le concerne, ça me paraît être logique de le faire rentrer dans un cours comme celui-ci. Alors voilà, nous sommes ici sur le jardin botanique de Nantes, par exemple. Photo prise extrêmement récemment, la pelouse est autorisée aux amateurs de plantes. Ça signifie donc qu'elle est par ailleurs interdite. Il y a donc une réglementation qui vient sur cet espace du vivant qui est très précise. Il faut être amateur de plantes. Donc là aussi, ceux qui ne sont pas amateurs n'y ont pas droit, y compris sur cet espace-là. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est que ce processus de sélection qui va finir par nous faire arriver sur cet espace-là, qui est pourtant un espace de la connaissance, seulement quelques personnes. Où on va donner à travers un étiquetage plus ou moins complet l'état de la taxonomie, le nom de la plante, éventuellement sa famille botanique. Ça, c'est une étiquette extrêmement simplifiée où on a le nom vernaculaire. D'ailleurs, on apprend à l'occasion que le cosmos s'appelle Cosmi. Je ne sais pas trop si c'est une traduction de celui qui, de lui-même, a fait cette étiquette ou si c'est passé dans le langage courant. Enfin, tout de même, il y a le nom latin correct, sans plus, avec le nom de variété. Il y a aussi, dans ce même jardin, mais on rencontre ça dans d'autres jardins, une référence à la classification d'origine de nos jardins botaniques. Les premiers jardins botaniques en Europe sont nés à Padoue et à Montpellier. C'est vraiment 1450. Vous voyez, on est au milieu du XVe siècle, c'est donc une affaire ancienne, et comme le Collège de France. Et dans ces jardins-là, on rangeait véritablement les plantes suivant des catégories que j'évoquais à propos du jardin des simples de Blois, les plantes qui sont en relation avec le chaud et l'humide, le chaud et le sec, le froid et l'humide, le froid et le sec, et ensuite avec les usages que l'on avait par rapport à tout ça. La théorie des signatures rentre dans ce type de classification où on attribuait par exemple à la pulmonaire, pour la raison qu'elle ressemble avec ses taches aux alvéoles pulmonaires de l'homme, on lui attribuait la capacité à soigner les maladies pulmonaires, ce que pas du tout avéré, mais enfin ça se passait comme ça. Donc cette classification-là est archaïque, elle n'est pas complètement abandonnée, puisqu'il y a des plantes qu'on utilise aujourd'hui qui sont d'une efficacité absolue, très bien reconnues, hein, pour toutes sortes d'usages. Là, il s'agit de la circulation sanguine. Voilà une étiquette complète où on vous donne le nom Ruscus aculeatus, c'est le petit houx, le fragon, c'est une liliacée dont les feuilles sont des cladodes, ce ne sont pas vraiment des feuilles, ce sont en fait des tiges transformées. Et on le voit parce que la fleur se met directement dessus, un appareil chlorophyllien, les tiges chlorophylliennes, c'est banal dans le monde végétal. On a donc un double nom qui vient de l'époque où on a statué en disant, eh bien oui, c'est pratique ce double nom, quelquefois on en met trois. Quand on en met trois, c'est parce que on réserve la possibilité à la variété, qui est le troisième nom, de changer. Par exemple, ici, on dirait Ruscus aculeatus aculeatus, qui est une manière simplement de dire qu'il s'agit bien de l'espèce, sans variété, sans caractéristique variétale. Mais s'il y en avait une, on changerait ce troisième terme. La lettre L signifie que ce nom a été donné par Linné. Tout ça est codifié et de temps en temps révisé. C'est-à-dire qu'il y a des réunions savants qui décident que ce nom n'est pas forcément correct et qu'il faudrait le changer. Loi d'antériorité, parfois, ce n'est pas toujours très justifié sur le plan de la description botanique. Il y a une plante qui s'appelle aujourd'hui Rhinotria japonica, qui était connue sous le nom de Polygonum japonicum. Polygonum, c'est évocateur, ça veut dire plusieurs genoux. Quand on regarde la plante, on sent que le long de sa tige, il y a ses genoux qui l'ont donné, qui ont justifié ce choix du terme. Et donc, bon, alors, mais on se réfère à Rhinotre, on se réfère à un classificateur ou un botaniste, etc. Donc ici, il y a en plus de ça comme indication, l'écologie. C'est un mode de regroupement qui se fait parfois dans certains jardins, où au lieu de séparer les plantes par famille botanique, je vais y venir, on les met tout à fait autrement, c'est-à-dire en rapport avec leur milieu. C'est quelque chose que l'on ne faisait pas du tout avant le début du XXe siècle. Dans aucun jardin botanique, ça n'apparaissait. Là, on marque en plus, évidemment, les parties qui sont utilisées et qu'est-ce que ça signifie en médecine. Ces jardins sont surveillés, sont, comme je le montrais tout à l'heure, les pelouses plus ou moins autorisées, et on est surpris dans certains d'entre eux, qui sont par ailleurs extrêmement intéressants, hein, la question n'est pas là, de voir à quel point ils font l'objet d'une série d'injonctions qui portent sur l'interdiction et très peu sur l'usage de l'espace. Ce sont donc des jardins contraints. Voyez, si ici, vous lisez tout ça, vous vous apercevez qu'il y a 3 autorisations pour 8 ou plus d'interdictions. On est en Afrique du Sud, Harold Porter est un jardin très intéressant parce qu'il est fait uniquement d'indigènes. Il y a très peu de jardins botaniques qui se rapportent à la stricte flore locale. Le jardin de Kirstenbosch, Cape Town, ne se rapporte qu'au fynbos, c'est-à-dire l'ensemble de la végétation méditerranéenne soumise aux incendies de cette région. Harold Porter, qui n'est pas loin, c'est carrément un morceau de ce fynbos avec la flore qui ne pousse que là, c'est-à-dire qu'on n'y rajoute rien, rien du tout. Simplement un morceau de nature étiqueté, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a de nombreux sentiers dans ce pays et dans d'autres régions du monde, les anglo-saxons ont beaucoup travaillé là-dessus, qui nous permet, le long d'un sentier apparemment pas du tout botanique, d'avoir accès à la connaissance de la plante qui est juste à côté. Ça, c'est aussi en Afrique du Sud. Un cussonia est une plante de la famille des lierres, un joli arbre petit, et qui est traduit, les caractéristiques botaniques ne sont pas du tout données. Par contre, on prête une attention à ce que ce soit entendu par 3 types de personnes pouvant circuler ici, les gens qui sont anglophones, d'autres qui parlent le bour, et les troisièmes, le zoulou, puisqu'on est dans un pays zoulou. Dans toute cette façon d'appréhender la nature et la connaissance des plantes à travers les sentiers botaniques, il y en a de plus en plus, il y a aussi des bizarres injonctions du genre « vous devez faire ce circuit en 5 minutes » ou « est-ce que vous pouvez le faire en 5 minutes ?» ou « 20 », ici c'est 20 quand même, hein, quand même, on nous laisse un peu de temps, et on se demande s'il faut réaliser cette performance ou si on a le droit de flâner. Et on ne sait pas du tout. Bon, en tout cas, c'est une possibilité. Le principe de la classification systématique. Il date de l'époque où Vaillant découvre, Sébastien Vaillant, botaniste, découvre la sexualité chez les plantes. Ça se passe à travers un pistachier. Tournefort, en 1702, avait rapporté des semences de pistache, il ne connaissait pas. Et ce pistachier est semé au jardin. Et il y en a un qui pousse vraiment bien, et c'est un pistachier mâle. Mais ça, bon, on ne se préoccupait pas de ces questions à cette époque-là. Et Vaillant s'aperçoit, puisqu'il y en avait d'autres dans Paris qui étaient semés, dans d'autres endroits, que s'il faisait s'approcher la fleur de ce pistachier, qui ne donnait jamais de fruits, d'une autre fleur, d'un autre pistachier, qui était un pistachier femelle, et qu'il en secouait le pollen, bref, il découvre ces mécanismes-là qui n'étaient pas connus jusque-là. C'est-à-dire que c'est la sexualité des plantes est une acquisition extrêmement récente, et 1716, le moment où il établit ce principe. Et à partir de ce moment-là, un mode de classification très particulier est arrivé qui se base strictement sur la sexualité. Parce qu'en effet, les plantes qui s'accouplent entre elles donnent des séries végétales qui ont des ressemblances particulières, notamment au niveau du diagramme floral. La fleur, c'est le sexe, hein. C'est ce qui attire les insectes, c'est ce qui permet les pollinisations. La pollinisation est découverte aussi à cette époque-là. Enfin, la force, la puissance et l'importance de tous les animaux qui interviennent dans ce mécanisme aussi. Ça ne deviendra une nécessité de les protéger que beaucoup plus tard. Mais à cette époque, on ne fait que découvrir. Et évidemment, à ce moment-là, on range les plantes en catégories. Celles qui ont 3 pétales, par exemple. 3 sépales, parce qu'on finit par nommer les appareils, les pièces de l'appareil sexuel. On nomme tout, les anthères, le pistil, etc. Donc ça devient une recherche de vocabulaire, de précision très grande, et on les met en catégories qui se ressemblent. Ça donne les familles botaniques. Et une plante qui a les 3 noms, ou les 2 noms que je vous disais, c'est une plante qui a son nom de genre, par lequel il est reconnu en tant que regroupement d'espèces qui sont donc très voisines dans ce genre, et un troisième éventuellement qui est une variation de l'espèce. L'espèce très mal définie, on ne sait pas trop ce que c'est, et par manque de précision positive est définie négativement. C'est quand 2 êtres se rencontrant ne sont pas capables de produire un être lui-même fertile qu'on dit qu'il y a 2 espèces différentes. car elles peuvent se ressembler beaucoup. Vous savez, les plantes et même les animaux, c'est la même chose, se ressemblant énormément, pourraient être de la même espèce. On finit par dire qu'elles ne le sont pas à partir du moment où leur éventuelle génération, première génération, est stérile. Mais quelquefois, il n'y en a même pas du tout, puisqu'il y a une stérilité immédiate. Là, je montre donc le principe alors de progression dans cette classification systématique. Je vais aller très vite parce que ce n'est pas complètement tout le sujet du cours aujourd'hui. En principe, on attribue aux fougères et au monde de ces plantes, disons, qui sont voisines des conifères, des casuarinales, etc., de toute espèce très archaïque et très ancienne, la position donc la plus antérieure dans le temps. Et dans certains jardins, elles sont d'ailleurs regroupées de cette façon. Là, je montre une fougère qui s'appelle Matthesia struthiopteris et qui est la fougère allemande, dit-on, entre guillemets, une fougère européenne, et qui est une de ces plantes qui a vécu il y a extrêmement longtemps et qu'on continue de voir vivre aujourd'hui. Très classiquement, on met les plantes monocotylédones, c'est-à-dire celles qui naissent avec un seul cotylédon ensemble. On les met par famille, bien entendu. La liliacée est une des familles les plus simples à étudier pour les botanistes, très facile avec les trois pétales, les trois sépales, enfin le type 3 des monocotylédones classiques, avec d'autres moins classiques, comme un ail, ça c'est un Nectaroscordum siculum, une plante qu'on appelle l'ail de Sicile, mais qui appartient à cette famille botanique, ainsi de suite, vous voyez, les érythroniums, peu importe, il n'est pas question de faire ici toute une démonstration de ces familles, et on arrive comme ça aux graminées extrêmement répandues dans le monde, qui appartiennent aussi aux monocotylédones, en étant passés par les joncacées, les cyperacées, etc. Et puis, les premières familles de dicotylédones, les plus archaïques, comme par exemple ce magnolia ou les renoncules ou d'autres plantes comme les nymphéas, par exemple, sont toutes dans ce groupe, où les plantes sont très voyantes, très belles, etc. Il y a comme ça l'idée d'une phylogénèse, c'est-à-dire d'une filiation de famille en famille, à partir de souches anciennes, donnant des plantes beaucoup plus complexes. On a vu la coupe de l'arôme à propos de la communication. Ça, c'est un Dracunculus qui est une aracée. C'est une plante tout à fait particulière. On arrive à des plantes plus modernes, on va dire. Les digitales font partie des Scrophulariacées. Et les... Ah, il y a une panne dans le... Voilà. Excusez-moi, je dois revenir en arrière. Les ombellifères et certaines plantes qui leur ressemblent, les composés font partie de ces plantes qui ont quelque chose à voir avec les ombellifères, sont dites plus modernes, plus récentes. Il y a des discussions là-dessus, il y a des révisions sur les phylogénèses, et ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui, c'est comment on nous explique tout ça, comment on nous le donne à lire. Bien sûr, c'est dans les jardins botaniques qu'on voit les premières organisations. J'ai déjà montré cette image du jardin botanique de l'Arquebuse à Dijon, qui en période hivernale pour la strate herbacée ressemble à plutôt une installation d'étiquette plus qu'un jardin, parce qu'on ne voit plus du tout les plantes, elles n'existent plus qu'à l'état de bourgeons au niveau du sol. Mais enfin, il y a toute une organisation et les plantes sont séparées par famille et par genre botanique. Quelquefois, l'organisation peut s'exprimer dans un style un peu funéraire, comme ici. Ça dépend. Vous voyez. Mais cela dit, il y a des couleurs, hein, c'est vif. Et enfin, comme ça aussi, de botanique, de famille en famille, avec, dans ce même jardin, du reste, qui est à Nantes, un souci sur la possibilité de faire vivre là des espèces que l'on veut absolument montrer, mais que le climat et le sol ne permettent pas de faire vivre correctement. Alors on leur apporte des petits abris, des petites installations pour qu'ils puissent vivre, supporter le froid, le vent, avoir de l'eau. Ce sont des micro-écosystèmes, par exemple cette fougère aquatique, il lui faut de l'eau. Voilà. Et on la protège comme on peut, il ne faut pas qu'on tombe dans le trou, enfin vous voyez, c'est compliqué. Mais on arrive à montrer. Et puis évidemment, et depuis toujours, on fait des herbiers. Un outil magnifique. Parce qu'il est fondamentalement poétique. Et je conseille à tous ceux qui auraient le désir de s'avancer dans la connaissance des végétaux, de faire un herbier, de dessiner les parties foliaires. Toute la morphologie de la plante est intéressante. Quelquefois, on ne peut pas mettre dans l'herbier toute la plante. En principe, on met tout ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire les pièces importantes, les pièces florales sont très importantes, les feuillages, là on a un feuillage composé de Cercidiphyllum, on appelle l'arbre en caramel, mais aussi les racines ont beaucoup d'importance, y compris dans la détermination. Donc tout ça joue un grand rôle. Pour nous, dans le paysage, ce n'est pas suffisant. On a besoin de savoir quelle taille va atteindre la plante quand elle sera adulte, à peu près adulte. On a besoin de savoir quelle couleur cette plante aura au printemps, à l'automne ou à certains moments. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que sa tonalité? Et évidemment, à quel moment elle s'exprime le plus. Il y a donc un calendrier ici. Son port aussi. Bref. Alors voilà, à l'époque, c'est en 1980 que ce dessin a été fait, un Cercidiphyllum, donc l'arbre au caramel, parce qu'il sent le caramel, dessiné à une échelle qui était celle que l'on disait être bonne dans les ouvrages. 8-10 mètres sous nos climats. Bon, en fait, ils en font 25-30, parce qu'on n'avait pas le recul. Bizarrement, il y avait des informations faussées qui venaient du fait qu'on n'avait pas eu de temps suffisant pour comprendre l'acclimatation de ces espèces chez nous. En plus, il y a un changement climatique qui est une réalité et qui agit sur la longévité, la croissance, la rapidité de la croissance, la pousse par an. Le taux de carbone dans l'atmosphère fait que les pousses des ligneux sont nettement plus importantes qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est quelque chose dont on ne se rendait pas du tout compte avant d'en avoir fait la mesure. Bref, ces fiches sont fausses. Mais sur le principe, elles ont de l'intérêt. Vous voyez, Cercidiphyllum, en voilà un. C'est le plus grand arbre sur la partie gauche de l'image, avec un ton clair en végétation et au printemps, une couleur caramel et à l'automne, une couleur plutôt rose avec une odeur de caramel. C'est pour ça qu'il s'appelle l'arbre au caramel. Voilà, donc toute cette méthode de la fiche paysagère qui prend en compte la dimension botanique est une manière de donner la nature à lire qui est très utile pour le paysagiste, évidemment. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour approcher ça. On ne referait pas ces fiches à la main, par exemple. Mais on ne les ferait peut-être pas du tout, d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est l'herbier, à la fois botanique et paysager. Comme je disais, il y a des herbes qu'on ne peut pas faire rentrer, pas commode dans le cahier, si vous voulez. Ça, c'est Gunnera manicata, plante du Chili. Alors, j'en ai fait sécher, donc je peux vous dire qu'on peut le faire. Sauf qu'il faut mettre ça dans un livre particulier. Il faut faire un livre à part. Voilà. La classification que nous avons évoquée au sujet du jardin en mouvement est une autre manière de voir le monde vivant végétal à travers les 5 types biologiques. Je ne reviens pas dessus. Mais elle est considérablement importante pour le paysagiste, pour les raisons que le jardin dure dans le temps, ce qui est le produit du concepteur paysagiste est pris en main par le jardinier. Et lui, il est intéressant qu'il sache ce que c'est qu'une plante qui se ressème, une autre qui vit profondément en silence sous le sol, et ainsi de suite. Les 5 types biologiques de Raunker, ça c'est comme je l'avais dit, un apport de la connaissance qui est très important, qui arrive vers la fin du 19e siècle. La classification écologique, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, est rarement représentée, mais elle a donné lieu à toute une importante littérature. Chaque milieu porte un nom. Par exemple, ici, on est dans une calunaie, c'est le nom de la plante qui est représentée majoritairement, mais pas toujours majoritairement. Sur un sol acide, on aura une série floristique qui est liée à l'acidité, au climat, et qui va donner lieu à un paysage particulier. Cet rassemblement de cet écosystème-là porte le nom quelquefois d'une plante qui est extrêmement rare, très peu représentée, au contraire, donc qui ne marque pas paysagèrement, si vous voulez, le milieu, mais comme elle ne peut pousser que là, elle est identificatrice du milieu. Donc là, toute une terminologie particulière que je ne vais pas énoncer parce qu'elle est un peu barbare, sur chaque écosystème. Et la classification par biome est beaucoup plus englobante. Il s'agit de l'amplitude biologique, des compatibilités de vie entre les plantes, de l'assujettissement au climat. Ça donne toute une série floristique et d'ailleurs animale, d'espèces vivantes, donc ensemble, qui peuvent vivre sous une zone climatique, disons, équivalente partout dans le monde, mais qui ne peuvent pas franchir ces barrières-là, ou tout à fait exceptionnellement. Les exceptions, ce sont les cosmopolites, grande amplitude biologique. Les hommes sont, grâce à leurs prothèses, des êtres incroyablement souples et capables d'habiter partout, mais ils sont fragiles quand même, parce que s'ils n'ont pas leurs prothèses, ils ne peuvent pas. Donc ils peuvent franchir tous les biomes, eux, à condition de s'équiper. Et on avait abordé la condition, le continent théorique qui en résultait. La classification cladistique est une autre manière de voir cet ensemble du vivant, où là, on se sert de chacun de ces caractères dérivés qui dépend d'un être supposé le plus ancien et qui est plus ou moins tenu au fil du temps, et ça met ensemble des êtres qui sont extrêmement différents les uns des autres. Ce qui fait qu'on peut rapprocher comme ça la baleine de l'hippopotame. D'un point de vue de la vision du cladisme, il y aura quelque chose à voir entre eux. Ce mode de classification-là qui porte sur l'analyse génétique, c'est-à-dire que dans la colonne de gauche, tous les caractères que vous voyez arriver là correspondent à une écriture génétique particulière. Ce n'est pas quelque chose qui nous est utile dans notre métier de paysagiste, parce que nous avons beaucoup de mal à mettre ensemble, bon, évidemment, une baleine et un hippopotame, on aura du mal. Mais pareil pour le monde végétal, il y a des plantes qui sont trop extrêmes, ce n'est pas forcément des plantes qui auront des capacités à vivre dans le même milieu. Ce qui nous concerne le plus, c'est évidemment la classification écologique, puisqu'elle a un sens par rapport au biotope, au lieu de vie, biotope. Et si nous voulons jardiner dans des conditions qui sont économiques et écologiques, nous avons intérêt à nous servir de cette entrée-là. Alors, en tant que réalisation, je montre quelques réalisations, il n'y en a pas beaucoup dans notre métier qui portent sur la nature à lire, c'est-à-dire sur la mise en connaissance de plus ou moins scientifique de cette nature. Le jardin de Mel, que j'ai déjà évoqué, et nous avons, Mel est fait, c'est un jardin d'ortie, et il est fait de Urtica dioica, qui est une plante bien connue, la plus répandue de nos orties, Urtica urins, une autre qui est annuelle et plus rare, et plus méditerranéenne aussi. Mais cette année, pour des raisons qui sont liées à la Biennale d'art contemporain, qui a eu lieu encore une fois cette année, donc c'était en 2011, nous avons enrichi ce jardin avec une collection. Et la présentation est une présentation qui se rapporte typiquement au jardin de la classification botanique, ce qu'on appelle la classification systématique, issue des connaissances venant de Vaillant, passant par depuis Tournefort et allant jusqu'à Linné via d'autres grands classificateurs. Voilà, bon, ça, on a vu l'ortie de Chine, l'ortie des bois, il y en a comme ça sept. Le jardin de Moinsartou, qui était la dernière image que j'avais montrée la dernière fois, est un jardin qui utilise aussi ce rapport-là, cette fois-ci en se servant du nom vernaculaire. C'est-à-dire que Belle renvoie à Belle de jour. Belle de jour, ce sont des pierres disposées dans le sous-bois de Moinsartou, et qui était un lieu, je vous avais expliqué, qu'il était hors de question de chambouler, étant donné sa caractéristique magnifique, hein, paysagèrement parlant. Et le jardin botanique qui correspond à ces pierres-là sont dans un autre espace tout à fait décalé, et on y voit les plantes qui correspondent à ces noms. Ça, c'est la rue, Ruta graveolens, une rutacée très odorante, que certains connaissent peut-être. Et voilà le petit jardin, avec un petit étiquetage, tout ça est discret, évidemment, ce n'est pas l'essentiel du projet de Moinsartou. Mais il est basé sur ce principe classique. Et la barbe, par exemple, il y a une pierre qui s'appelle barbe, renvoie à cette plante, la barbe de Jupiter. Le travail d'un autre projet, donc, en cours, il est en cours et il n'a pas de raison de s'achever parce que il s'agit, sur la base sous-marine de Saint-Nazaire, d'une dépression que j'ai déjà eu l'occasion de signaler ici, sur laquelle nous avons placé un petit substrat faible et puis nous avons attendu. Et là, soit par le vent, les oiseaux, soit parce qu'il y avait des semences déjà dans le sol, sont apparues toutes sortes d'espèces que les étudiants du lycée agricole Jules Rieffel de Saint-Herblain viennent découvrir, et avec un professeur de botanique, il leur donne un nom. Ça s'appelle donc le jardin des étiquettes. Là aussi, le système de référence est celui de la classification systématique. Mais la disposition, qui est naturelle, puisqu'elle vient d'elle-même, est complètement écologique. Donc voilà, par exemple, il y a eu une question là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde les étiquettes des plantes pionnières ? Par exemple, en voilà une. La plante a disparu, ce qui est tout à fait logique. Elle a été identifiée lors d'une séance. Il y a 3 séances d'identification par an. Et elle a disparu. Alors, est-ce qu'on laisse sa mémoire ? La plante ira se ressemer après. Pédagogiquement, c'est intéressant. Mais au bout d'un moment, on ne va plus voir que des étiquettes partout. Donc, on a décidé quand même qu'il fallait qu'on l'enlève. En plus, pour les visiteurs qui ne sont pas au courant, ça introduit quelque chose d'ambigu et on ne peut pas y arriver. Mais tout de même, le rôle des pionnières qui apparaissent, disparaissent, c'est dans le place aux autres, et c'est l'hétérophyte dans le spectre de Rampierre, c'est très important. Le projet du belvédère des lichens, lui, il n'a pas de nomenclature à portée de regard. On est sur un site où on voit loin. Nature à lire, c'est aussi le paysage lointain. Mais adjoint à ça, il y a un petit livre sur les lichens. Donc on montre à la fois la physiologie des lichens, leur mode de reproduction, mais aussi des exemples de ces lichens. On a, je vous l'avais dit, je crois, à partir d'une idée bizarre de l'observation la plus simpliste, qu'il y aurait soi-disant 4 lichens, il y en a en fait 14 et peut-être même 21. Enfin, Corinne Nantais, qui est la lichénologue qui nous fait cette détermination, a montré la richesse incroyable de ces rochers qui sont l'emplacement où se trouve le belvédère lui-même. Ça a justifié un petit ouvrage. Bon. Lichen et mousse, ici, on a en plus. Le jardin de Valoir, 10 hectares dans la vallée de la Somme, a donc une partie que j'évoquais déjà la dernière fois, qui est située en dehors de cet axe de composition, qui s'appelle le jardin de Lamarck, en l'honneur de Lamarck. Et c'était important. Alors, c'est dans ce jardin-là qu'il y a une scénographie appropriée à la progression, enfin, la phylogénèse, à ce qui est supposé être, en tout cas, une progression des plantes les plus anciennes vers les plantes les plus modernes, avec les prêles notamment, les ginkgo biloba dans la partie les plus basses et les plantes les plus sophistiquées dans la construction, dans l'adaptation, dans le mécanisme de coévolution, parce qu'il y a plus performant pour la vie, sont placées au plus haut, se terminant par les 3 chambres, faisant l'objet d'une architecture quasiment d'art plastique, on pourrait presque dire ça. Si je remontre ça aujourd'hui, c'est parce que c'est en rapport, quelque part, avec le cladisme, c'est-à-dire un mode de compréhension de l'évolution. Lamarck est celui qui a proposé pour la première fois, 50 ans avant Darwin, la théorie de l'évolution qu'il appelle que les Lamarckiens ont appelé le transformisme. Le transformisme lamarckien, c'est le constat qu'un être au courant de sa vie, au cours de sa vie, peut acquérir quelque chose qui va s'inscrire suffisamment, y compris dans ses gènes en théorie, mais en fait, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe, et le transmettre à sa descendance. La transmission des caractères acquis s'appelle donc le transformisme lamarckien. C'est cette théorie-là. 50 ans plus tard, Darwin propose tout à fait une autre lecture en disant, pas du tout, la nature a toutes ces capacités-là, l'environnement sélectionne et ne fait passer que ceux qui sont adaptés aux exigences de vie du moment. Et à ce moment-là, on a un principe sélectif. Chaque être qui naît avec un patrimoine génétique déterminé ne change pas. Ça coïncide d'ailleurs avec une vision déterministe de l'évolution et ne changera jamais au cours de sa vie, ne transmettra donc rien. Ce qui, et philosophiquement, ce sont deux positions extrêmement différentes. Dans le cas darwinien, il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas changer. Dans le cas lamarckien, on peut changer, tout le monde peut changer. Alors, il se trouve que la théorie de Lamarck a été violemment combattue et que pratiquement aucun savant aujourd'hui ne se réfère à cette position-là, alors que très bizarrement, le transformisme, d'une certaine façon, est revenu dans la compréhension des mécanismes et même est admis. À travers les études sur l'obésité, on s'est rendu compte qu'acquise cette obésité au cours d'une génération, elle est transmise 2 générations plus tard d'ailleurs, pas immédiatement, mais ensuite toutes les autres. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment la transmission d'un caractère acquis au cours de la vie d'un être. On peut en dire autant des plantes pyrophytes qui se sont façonnées sous la pression des feux et qui ont acquis des caractères tels qu'elles auraient presque besoin du feu pour vivre. On peut en dire autant sans doute de beaucoup d'autres êtres dont on ne connaît pas forcément bien les mécanismes au cours du temps. Ce qui est attribué aujourd'hui et qui coïncide à... ce qui coïncide avec le transformisme lamarckien aujourd'hui est attribué à l'épigénétique, c'est-à-dire que ce qui se transmet et qui modifierait le caractère, ce qui a été acquis et qui modifie l'être et qui se transmet, est attribué à quelque chose qui n'est pas le génome à proprement parler, alors ça devient quelque chose qui est autour de lui. Mais le résultat est le même. Et ce qui est intéressant, c'est que le résultat est le même. Il y a donc de l'espoir, important à savoir. Voilà pourquoi je montre ça. Le principe d'interprétation, c'est une manière de donner à lire la nature qui est extrêmement intéressante. Ça donne à lire ce qu'on ne voit pas, ce que l'on ne peut pas voir, soit parce que c'est invisible à l'œil, soit parce que c'est passé, c'est dans la mémoire, et ça n'est écrit nulle part, on ne peut pas le voir. C'est né aux États-Unis, un champ de bataille, on a un lieu où on vous dit, ben voilà, il s'est passé ça. Ben oui, mais enfin, on ne le voit pas et on ne le verra plus. Donc on vous raconte quelque chose qui a marqué le lieu. Ici, on vous dit, cet arbre évapore 650 litres d'eau par jour. Ce n'est pas écrit complètement, mais un peu. Ça reste énigmatique pour qu'on puisse poser la question, mais c'est quoi ? Et le guide vous dit, c'est le long d'un sentier botanique dans le Queyras, il dit, ce frêne, c'était un frêne, évapore ça. C'est énorme. Quand on le sait, c'est très intéressant. On rentre dans une compréhension des mécanismes de l'arbre et de ses exigences aussi bien. En d'autres lieux, toujours dans des lieux de nature où on veut vous expliquer quelque chose, là c'est près de 7, on vous oblige à regarder par la fenêtre. Et là, vous voyez un petit écosystème de la garrigue, on est en sol calcaire, et vous avez l'explication au-dessus. Voilà. Alors, comme ça, plusieurs panneaux, ce sont des sentiers dits d'interprétation. C'est une manière assez vivante, intéressante, de regarder le milieu dans sa configuration naturelle. J'avais déjà montré cette image pour des raisons liées à sa réussite plastique, mais il s'agit aussi d'une interprétation, puisqu'on vous dit sans les mots, l'arbre couché, les mousses et les lichens qui sont dessus sont très importants. Et d'ailleurs, un peu plus tard, vous avez en effet aussi, comme pour l'observatoire des lichens, un ouvrage qui vous donne toutes ces espèces. Alors, il y a dans l'interprétation même des variations. Ça, je dis que c'en est une parce que ça se passe en Tasmanie. On va voir l'arbre le plus haut du monde, qui est un eucalyptus, Eucalyptus regnans. Vous savez, quand la Billardière, c'était l'émission d'Entrecasteaux à la recherche de la Pérouse, voit ces arbres considérablement hauts, pour les mesurer, on les abat. Bon, évidemment, il n'en reste plus beaucoup. Et ils font 130 mètres, c'est-à-dire que c'était plus grand que les plus grands des séquoias qu'on n'a jamais connus. Et malheureusement, ceux-là restent aujourd'hui les plus grands white gum en question. Ne font plus que 90 mètres. Mais enfin, c'est pour ça que quelqu'un a rajouté « left in the world » parce que les autres ont disparu. Et puis, il y a des interprétations radicales où on vous dit « attention, ça, c'est une plante invasive. » Vous savez, il y a toute une névrose là-dessus, planétaire. Hein. Et donc, la plante qui arrive d'ailleurs est une plante qu'il va falloir combattre. Ça se passe dans la réserve écologique du Rio Tijuana entre Tijuana, la ville, et San Diego aux États-Unis. Le mur qui sépare ces deux pays, qui est double aujourd'hui, est là. Et dans la réserve, vous entrez et vous voyez ça. C'est évidemment pas complètement anodin. Comme je m'en étais beaucoup étonné, l'ennemi, c'est donc un tamaris européen. Hein, c'est fait, ces images-là, par des Européens. Et ça donne à penser. Ce sont donc les envahisseurs contre lesquels on va. Et là, c'est très intéressant, mais aussi très inquiétant. Et donc, ils ont supprimé ça. Ils sont retournés, ils ont supprimé ça. Et ils ont maintenant une manière de donner cette nature à lire plus pédagogique, moins impliquée dans ce genre de choses, qui est le radicalisme, si vous voulez, de la série floristique indigène. Ça, c'est une interprétation poétique que je trouve assez rare. Hein. Pierre Tombé et Glaïeul, c'est un tunnel qui est situé au nord de l'Estaque, cette petite voie ferrée qui part de Marseille. Ça, c'est une indication pleine d'espoir, on peut dire. Et future collection, c'était, nous étudions l'emplacement pour le soi-disant ancrage du radeau des Cimes avec Francis Allais près de Montpellier. Ça n'a jamais eu lieu, pas plus mal d'ailleurs. Enfin, il y avait ça à la place. Ou bien des choses un peu surréalistes, oui, comme ça. Bon, on sait qu'il n'y aura jamais un arbre au sommet du Mont Ventoux, c'est impossible. Mais quand même, il y a une forêt de manial qui est décidée. Donc c'est une vision administrative du paysage qui n'est pas inintéressante. C'est rare, hein, mais j'ai trouvé ça dans le Limousin, une forêt de placement, on va dire. Hein. Alors, on rentre d'ailleurs avec tout ça dans un autre registre qui est celui de l'espace public. Comment nous donne-t-on cette nature à comprendre? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? J'ai déjà parlé à propos de la patrimonialisation de cet eucalyptus qui est devenu un peu sacré parce qu'il avait été photographié par un artiste. Mais avec le monde animal, on a un peu plus de mal parce que les animaux, on ne peut pas les étiqueter comme ça. Ils n'ont pas, même avec des puces et des GPS et des lecteurs, on a du mal. Bref, qu'est-ce que c'est que cette minuscule être, ce petit, peu importe, mais il bouge. Alors celui-ci ne bougeait pas, parce qu'il avait été, c'est une silhouette de loin, on voyait un oryx, on s'approche d'une poubelle, c'était dans le désert du Namib, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, et je vais faire les deux séries en même temps, comment nous voyons-nous, nous? Vous voyez que là, nous sommes assimilés à des moutons, puisque nous sommes dans le même triangle rouge. C'est intéressant parce qu'il y a une marque culturelle sur la manière de nous donner nous-mêmes à lire. Nous faisons partie de la nature. Donc les animaux, pour commencer, on pourrait mettre une étiquette sur la rue, la voilà, la rue, Ruta Graveolens, mais pas sur la chenille du Macaon, qui d'ailleurs, bizarrement, mange cette rue. Dans Paris, famille des Rutacées, pas du tout la famille botanique sur laquelle se nourrit ce papillon. Il y a quelque chose de très intéressant là parce qu'on l'a revu sur des choisias, même famille, rutacées, et il y a un décalage de la nourriture. Cet animal monophage viendrait à profiter du brassage planétaire. Globalement, c'est ça qui se passe. Donc on met les animaux dans les zoos parce qu'il y a guère manière de faire autrement. Et là, on peut les voir facilement. Ça, c'est une image qui vient du parc zoologique de Douai-la-Fontaine, qui est par ailleurs assez remarquable. Les parcs zoologiques ont beaucoup évolué et ce qu'on nous dit dessus, les animaux, enfin toute la façon dont on s'en occupe surtout, a beaucoup, beaucoup changé. C'est un peu plus réconfortant qu'autrefois. Ce sont moins des prisons. Mais enfin bon, les girafes, elles ne sont pas en Afrique. Là, voilà, ça apparaît donc dans une carrière. Ce sont des carrières, des anciennes carrières, le parc zoologique de Douai-la-Fontaine. C'est un lieu qui est intéressant parce qu'il est dirigé par quelqu'un qui s'occupe de remettre des animaux, avec d'autres directeurs de parcs zoologiques dans le monde, des animaux dans les pays d'origine d'où ils sont originaires, à la condition qu'ils puissent y être préservés. Donc voilà, on a vraiment un aspect paysager très fort qui est dû au lieu de ces carrières qui sont même renforcées. Hein. Quand il n'y a pas assez de place, on en crée une autre. Il y a des efforts pédagogiques. Hein. Quelquefois, celui-là, je dirais qu'il est un peu passé. Ça se voit comme ça. Mais il n'est pas inintéressant. C'est dans le parc zoologique de Delhi. Ça concerne tous ces cervidés qui sont très, très bien représentés dans ce parc-là, qui, lui, est en grande désuétude par ailleurs. Mais dans ce lieu, on y trouve aussi des animaux invisibles, hein, les composts faits par les vers. Et puis, je montre là une série de la signalétique, c'est-à-dire on n'est plus dans la détermination, on n'est plus dans la lecture scientifique, ni dans la classification, mais simplement dans l'alerte. On vous dit, là, il y a des animaux. Bon, ceux-là, ils sont sacrés, un peu, hein, parce que les camions, le long des routes en Australie, ils rentrent dans le kangourou rouge sans aucun problème. Ils ne vont pas freiner. D'après, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps, ils sont sur des pistes. Donc, il y a beaucoup de cadavres de kangourous. Mais enfin, les émeus et les kangourous sont réputés être protégés. Bref, ça donne lieu à tout un système d'alerte. On vous dit, le Bandicoot à Manly est une presqu'île près de Sydney, il faut y faire très attention. Donc c'est une espèce de... ça ressemble à un rat. Vous ne pouvez pas écraser cet animal-là. Donc ralentissez. Et le long de cet endroit, qui est un paysage assez remarquable, quand on s'enfonce vers là-bas, où se trouve le Bandicoot, le long du chemin, on trouve la sculpture, l'objet. C'est-à-dire qu'on en fait quelque chose, on vous donne cette nature à lire artistiquement avec la dimension scientifique. Curieusement, il y a plein d'autres figurines et animaux, et il y a aussi un surfeur. On vous dit de faire attention à tout. Et ça, ce n'est pas inintéressant, parce que de la même façon que le mouton et l'homme se trouvent dans le même cas, pour le village de Dompnac en Ardèche, on se trouve ici dans un autre cas de figure où nous sommes assimilés. Pourquoi pas ? Alors j'ai trouvé comme ça, à droite et à gauche, des manières de nous alerter, ici en Nouvelle-Zélande, qu'on n'a pas partout. C'est-à-dire qu'il y a une lecture culturelle de qu'est-ce que c'est que cette nature que nous voulons protéger ou sur laquelle nous voulons vous dire quelque chose. Ici, il y a une mare à gauche, donc on vous dit, attention, les canards peuvent traverser quand même. Ou bien la tortue peut traverser. Là, c'est le fameux Finbos d'Afrique du Sud. C'est rare de trouver ça chez nous, encore que la tortue d'Hermann, qui est en voie de disparition dans la partie du massif du Var, hein, le massif des Maures, mériterait qu'on signale, qu'on mette des panneaux de ce genre. Vous voyez. Plus rares, les insectes. Là, j'avais trouvé ce bousier dans une réserve quand même. Il faut dire, on était dans une réserve d'éléphants, dans un endroit où il y a eu beaucoup d'éléphants, mais il n'y en a plus du tout. C'est au nord de Port-Elisabeth. Donc, évidemment, il n'y a que très peu de bousiers, puisqu'ils sont inféodés, ils sont typiquement inféodés à cet animal, la bouse et l'éléphant. Donc, il ne faut pas rouler sur un bousier. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a quelques bousiers en France. Pas beaucoup. Et beaucoup, beaucoup moins que quand, il y a 30 ou 40 ans, on se promenait dans les prairies. Parce que toutes les vaches sont traitées. Elles ont des antivies, des antibiotiques. Et beaucoup. Ce qui fait qu'évidemment, dans les bouses, il n'y a plus rien. Et les entomologistes qui s'intéressent à la question... et c'est Fabre qui avait fait tout un travail sur les bousiers, le premier, les entomologistes viennent dans les élevages bio parce qu'ils retrouvent des bousiers, sinon il n'y en a pas. Bon, le bousier du... Alors, les abeilles, c'est aussi quelque chose qui est rare. C'est dans un jardin botanique, c'est à Montréal, et on explique par là, attention, il y a des ruches quelque part. Ce n'est pas dangereux, une abeille, enfin, c'est rare. On sait que ça peut créer des problèmes d'allergie, mais... là, c'est la perplexité de l'animal devant les... Qu'est-ce qu'il doit faire ? Et c'en est plein de signaux comme ça, partout dans le monde. Alors, la vache. La vache qui attention, c'est pas trop, là, évidemment, là aussi, c'est ambigu, mais c'est la vache modèle européen-français, en Nouvelle-Calédonie, mais enfin, ça fait rien, c'est nous qui avons dessiné cet animal. Et elle est un peu différente, vous voyez, c'est dans le détail que les choses se passent. Nos cornes sont horizontales. Les cornes de la vache espagnole, non. Parce qu'il y a quelque chose à voir avec le taureau. Et on est dans un autre rapport culturel. Là, on ne veut plus la voir du tout. Et ça, c'est parce qu'on a changé, c'est en Nouvelle-Calédonie, de région. On est dans le nord, c'est la partie Kanak. Ils ne veulent pas de ça. Ça ne les intéresse pas du tout de savoir qu'on doit faire attention à cet animal. Donc on tire dessus de toute façon, quoi. Et ce n'est pas sur l'animal qu'on tire, bien sûr, c'est sur l'ordre. Et puis alors, la vache australienne, qui, elle, résiste à tout, manifestement, elle est plus forte que les autres, parce que dans ce rapport entre... La violence ou la, je ne sais pas, de l'industrie humaine et la puissance de la nature, c'est la puissance de la nature qui gagne. Alors, notre cerf, il est très intéressant. Il est intéressant parce que d'abord, il est très élégant. Il part voler, vous voyez, on le voit comme ça. Nous, nous décidons, il est français, hein, typiquement. Hein. Il a un peu le ventre creux, enfin, il a des grandes cornes. C'est pas, peut-être pas la majorité, des, mais bon. Le cerf canadien n'est pas du tout comme ça. Lui, d'abord, il écarte les pattes généreusement, comme ça. Et il a un peu de ventre quand même, pas trop. Il semble voler au-dessus de la route, mais voilà. Et le cerf écossais, lui, il est chassé à court, c'est évident. On sent que, d'abord, il traverse la route de gauche à droite, qui est logique, et on est dans un pays où on roule à gauche. Donc, tout ça, ce sont des indications culturelles extrêmement particulières pour dire la même chose, mais pas tout à fait la même chose, puisqu'on ne le voit pas exactement pareil. L'élan au Canada, qui est altier, qui a des grandes pattes très très longues, et le même, c'est en Suède, à Trondheim, où on peut d'ailleurs acheter son panneau, si on veut, dans un magasin. Alors, nous, parce que quand même, nous sommes concernés dans cette affaire. Qu'est-ce que nous disons sur nous ? Vous voyez, ici, il s'agit d'une image qui est prise tout à fait récemment dans le village de Saint-Benoît-du-Sault cet été. Mais l'image, elle a été construite il y a longtemps. C'est une indication sur une sortie d'école en 1950, hein, peut-être avant. Bon, d'ailleurs, le panneau est défraîchi un peu. On voit que c'est une jeune fille devant et que c'est sa maman derrière. On devine ça. On se dit, c'est ça. Ils vont à l'école, ils ont des cartables, etc. Bon. Évoluant. Oui, là, oui, le panneau aussi, il est là depuis un certain temps. Et évoluant, mais enfin, on a un peu la même silhouette. Un panneau qui dit à peu près la même chose, sauf que la personne qui se trouve adulte, sans doute là, est peut-être un homme ou c'est peut-être un grand frère. Toujours en allant lentement, puisqu'il y a une question de rythme qui est très importante, au Chili, on a carrément un homme derrière et l'enfant devant. Mais là aussi, on change de culture, de pays, on change de sens de circulation. On est en Australie, la jeune fille est devant et elle est plus âgée. En Palestine, il n'y a pas la maman, il y a le papa pour faire traverser l'enfant. Je ne sais pas ce que ça indique. On pourrait chercher. En Grèce, récemment, quelque chose qui se réfère aussi à la lenteur, cette combinaison-là, on pourrait les lire à chaque fois en disant « la fille est devant, elle est habillée comme si, le garçon est derrière, etc. » Voilà notre système à nous actuel. 60 en même temps, ça, bon. Donc on va plus vite. D'ailleurs, vous voyez qu'il court un peu. Parce que les voitures vont plus vite, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est plus dangereux, manifestement plus dangereux. Et d'ailleurs, quelquefois, on met ça au sol, ce qui est assez inquiétant, parce qu'on se dit qu'on va les écraser en même temps. C'est très bizarre, hein, la façon dont on nous dit les choses. En Italie, là, c'est dangereux carrément, parce que les Italiens roulent plus vite, ils ont des voitures rouges, enfin, tout ça, ça va avec. C'est pas complètement hasardeux. Et dans d'autres pays, on fait un peu pareil. Ça, c'est en Inde, où on reprend cette course, quelquefois même forte. Il est tout seul, celui-là, mais enfin, il va vite. Et alors, en Bosnie, où là, c'est explosif. Mais on ne sait pas très bien qui doit faire attention à quoi. Parce que c'est peut-être les enfants qui sont très dangereux. Là, on ne sait pas. Voilà. Et puis alors, ça prend... C'est bien parce que vous participez parfaitement. C'est en Californie. Ça n'est pas tout à fait lié à traverser des enfants pour les écoles. C'est toute une famille, en fait. Il s'agit de s'écarter d'un danger réel. C'est une centrale qui est à côté et qui peut exploser à tout moment. Alors, on voit comme ça des choses... Terrible, hein, terrible. Là, c'est le long d'une rivière extrêmement polluée dans la vallée de la Ruhr, en Allemagne. Il y a quatre des photos, parmi toutes celles que vous avez vues, qui me sont prêtées. Je remercie les gens qui, sachant que je m'intéresse à ça, m'envoient ces images. Celle-ci en fait partie. Et alors là, Celle-ci aussi. Mais elle est très rare. Parce que le cas de figure est très rare. Bon. C'est en Afrique du Sud. C'est dans une réserve où il y a des crocodiles. Voilà. Alors, l'interprétation... Évidemment, les artistes n'ont pas pu se laisser indifférents à ça, et certains ont récupéré, il y a quelques fois, des images travaillées à partir de ça. Celle-ci est en Suisse, et je ne pense pas que ce soit dans la normalisation. Enfin, on interdit ses enfants de jouer. Ça, c'est dans un petit village dans la vallée de l'Ardèche, oui. C'est une œuvre artistique, d'ailleurs, elle est revendiquée, avec des boutons de... Ça, c'est près de Mende. J'ai fait marche arrière pour prendre la photo parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais elle est quand même un peu lourde, hein, la vache. Tandis que, lui, et là, on est dans les Deux-Sèvres, lui, c'est normal. On sent que ça peut. Donc, il y a des artistes, hein, qui s'amusent beaucoup. Vous voyez, ça va avec le Père Noël, avec tout ça, qui font des œuvres. Ici, quelqu'un qui a peint un rhinocéros. Bref. Alors ça, oui, bon, ça c'est très, très rare. Bon, je sens qu'on va dépasser l'heure. Je vais terminer tout de même. Voilà. Alors, je termine par la lecture du ciel. C'est un jardin complètement inattendu. C'est une nature à lire aussi. Il s'agit d'une création commandée par un Maharaja en 1700 et quelques, j'ai plus la date très précise en tête, et 1780, je crois. Et à cette époque-là, il interroge le ciel en se disant, il est lui-même astronome, il se dit, après tout, ça va mal, l'économie va mal, l'économie c'est le sujet de la semaine prochaine, et donc peut-être que c'est qu'on ne sait pas s'occuper de nos astres, les comprendre pour organiser notre vie. Je trouve c'est intéressant puisque aujourd'hui il y a toute une manière de s'occuper de la terre et des plantes et aussi des animaux qui en référence avec le cycle des astres, l'importance de la lune, l'influence de la durée du jour sur les glandes pinéales. Enfin bref. Alors il va trouver des astronomes en France par le biais de Duplex et ce Maharaja qui s'appelait Maharaja Sawai Jai Singh II. Il y a eu un avant lui, et gratifié du titre de Sawai qui signifie un vaut, qui vaut un plus un quart. L'empereur de l'époque, un plus un quart, ça veut dire qu'il est excellent, c'était un savant. Mais il travaille avec d'autres savants et décide de faire des jardins astronomiques qui s'appellent les Jantar Mantar, il y en a 5 en Inde, dont le plus remarquable, visible en tout cas aujourd'hui, est à New Delhi. Et on voit cette organisation qui, pour moi, est un vrai jardin, parce que c'est un outil de mesure astronomique, mais c'est quand même un vrai jardin, qui se perçoit avec le gnomon, qui est une architecture incroyable, le plus haut bâtiment au milieu de cette image-là. Et au sommet de ce gnomon, par exemple, il y a une sorte de trou, comme le chat d'une aiguille, par lequel l'étoile polaire, certains jours de l'année, vient faire passer sa lumière qui se reflète dans un bassin au pied. Donc c'est aussi un jardin poétique. Il a des instruments de mesure incroyablement complexes et bizarres sur le plan formel, qui sont tout à fait calculés pour savoir quelle heure il est au moment où il est midi à Delhi, à l'autre bout du monde. Vous voyez ça, c'est quelque chose qui était envisagé à l'époque, comme information, grâce à l'ombre portée sur la marche de tel édifice qu'on a vu tout à l'heure et qui, de l'autre côté, va donner l'heure à tel endroit. Vous voyez, ce sont des choses tout à fait étranges pour nous aujourd'hui, voilà, cet édifice-là, d'ailleurs. Donc, c'est un jardin de fabrique, on dirait, sauf que chacune de ces fabriques, a un rôle particulier qui donne un état de la nature à lire, l'état du ciel. Alors, les explications existent, c'est plus du tout utilisé, c'est devenu un jardin évidemment historique, qui a valeur patrimoniale, mais qui est un jardin pour les habitants de Delhi, alors que personne ne vient le visiter, puisqu'on ne sait pas qu'il existe véritablement et qu'il ne figure pas dans les livres de jardin. Je pensais important de le montrer aujourd'hui. Vous voyez, l'ombre portée ici donne quelque chose de particulier qui va être interprété par les lecteurs avertis. Alors voilà cette architecture qui a quelque chose à voir avec les tableaux des chairs. Ce n'est pas quand on monte, quand on descend. C'est extrêmement sophistiqué, vous voyez. Très bien entretenu, refait plusieurs fois. Et que je vous invite à aller visiter, même s'il n'a plus aucune espèce de valeur scientifique aujourd'hui. Ce qui est intéressant comme conséquence de ce travail fait avec les astronomes français qui étaient sous le HIR était un grand astronome qui avait eu une réputation mondiale, et ce sont un petit peu ses élèves qui sont venus avec les astronomes locaux pour travailler sur ce lieu, et l'un d'eux, qui était souvent des jésuites, était un grand sanskritiste en même temps qu'un grand helléniste. Et ça date de cette époque-là, la prise de conscience, à cause de la convergence des termes, du fait que la civilisation indienne et la civilisation européenne étaient très liées. Et les langues indo-européennes, c'est ça. Ça date de ce moment-là. Donc on le doit, cette prise de conscience, au jardin astronomique du Jantar-Mantar de Delhi. Voilà, il y a même des arènes. Je passe très vite parce qu'il faudrait encore une bonne heure pour l'explication de la totalité de l'usage de chacun de ces outils. Ce sont des outils de mesure. Alors, cette image, c'est l'avant-dernière, qui indique qu'il va se passer quelque chose devant. Mais on n'a jamais vu, parce qu'on était le long d'une route, on n'a jamais compris ce que c'était. Sans doute un aménagement, mais comme c'est landscaping, c'est un aménagement de paysage, donc ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, il s'agissait de la route qui continuait. Mais il y avait, parce que je me suis renseigné, l'idée que ce serait un aménagement futur, là. Donc on nous prévient qu'on va faire quelque chose. Dernière image, ce paysage qui a à voir avec la séance prochaine, où là, on a fait quelque chose à deux niveaux, un grand paysage ouvert, mais un paysage à la fois composé, avec quelque chose au milieu, ces espèces de tas qui ont valeur paysagère, plastiquement, qui renvoie à l'art, et la culture de la canne, qui renvoie à l'économie. À la semaine prochaine.